Vous êtes sur RTL. RTL Matin
avec Yves Calvi.
Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger.
Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Alors vous venez de confirmer votre place de premier syndicat du privé, 4 ans après être passé devant la CGT. Alors c'est une bonne nouvelle pour vous, j'imagine. La moins bonne, c'est que ces résultats enregistrent une baisse de la participation. Est-ce que vous êtes inquiet de cela ?
Oui, je suis inquiet de cela. C'est autour de 45% de participation. Je suis inquiet, comme je suis inquiet, par exemple, pour les législatives partielles hier, d'une participation autour de 15% selon les cas. C'est à chaque fois qu'il y a un recul de participation, c'est une forme de recul démocratique. Donc, il faut qu'on se préoccupe de ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit encore plus proche des citoyens dans le cas des élections politiques, mais dans le cas des élections professionnelles, qu'on soit davantage présent dans les entreprises encore. C'est un défi que la CFDT relève. La preuve, on a aussi confirmé largement notre première place parce que nos militantes et nos militants dans les entreprises sont très présents.
Mais bien sûr, mais ça veut dire qu'il y a une défiance ou un rejet aussi vis-à-vis des syndicats ?
Non, depuis un an et demi, le début du Covid, on voit une cote de confiance dans les syndicats qui augmente.
Vous ?
Particulièrement, ouais, particulièrement dans nous, on le voit,
c'est pas le cas de
les
la CGT,
enquêtes extérieures. Il y a une cote de confiance dans les organisations syndicales. Ce qui est sûr, c'est que parmi celles-ci, il y a une organisation syndicale qui est la CFDT qui confirme beaucoup d'attentes, mais aussi beaucoup de satisfaction de la part des salariés. Donc c'est plutôt rassurant, mais il y a une défiance dans les institutions généralisées dans notre pays. Ça, il faut en avoir conscience. Donc comment on y répond ? Et pourquoi la CFDT est devenue première organisation syndicale ? C'est ça qui est intéressant. C'est parce qu'on est allé au contact, à la réponse concrète, à l'écoute des salariés et à la capacité de porter des solutions pour eux.
Mais en quoi êtes-vous encore représentatif des salariés ?
Écoutez, 45%. Vous savez, il y a 6 députés, ou 5 ou 6 députés, qui vont être envoyés la semaine prochaine ou dans 15 jours à l'Assemblée nationale en ayant 15% de participation. Ils sont représentatifs. C'est ça la démocratie. Ce qui est le problème, c'est pas de taper sur les institutions. Je crois qu'on ferait une grave erreur. Il faut qu'on s'interroge sur ce qui fait défiance aujourd'hui dans notre société. Ce qui fait défiance, c'est la parole non maîtrisée, c'est du débat public pas à la hauteur. Et donc, je crois qu'il y a une grosse confiance dans les organisations syndicales. On a un gros défi d'implantation là où on n'est pas présent. Notamment dans les petites entreprises. Mais je crois qu'on fait la preuve de notre utilité. Pendant cette année, on a répondu à moult préoccupations des salariés. On a répondu avec des propositions concrètes. On obtient des résultats. Le dernier, c'est dans les salariés du médico-social et du social, on a obtenu des avancées salariales suite au Ségur de la santé de l'année dernière. Donc vous voyez, il faut mettre ça en avant et continuer le travail.
Et ce n'est pas fini. On espère sortir d'une crise sanitaire qui est aussi une crise économique et sociale. Vous attendez, Laurent Berger, à une explosion du chômage ?
Pas forcément. Moi, vous savez, je crois que ça va repartir. C'est déjà reparti en partie. Mais je crains beaucoup à ceux qui vont rester sur le bord de la route. C'est-à-dire que je crois que pour tous ceux qui ont été pendant cette crise plutôt protégés, parce qu'il y a eu des soutiens aux entreprises, des soutiens aux travailleurs sur leurs revenus, eh bien, quand ça va repartir, bon, ben voilà, ce sera un mauvais passage qui a été dur psychologiquement pour nombre de citoyens quand même et de travailleurs. Mais ça va repartir. Mais il y a tous ceux qui ont subi plus que d'autres.
Qui sont-ils ?
Eh ben, ce sont les travailleurs indépendants, mais très dépendants économiquement. Ce sont les travailleurs précaires. Ce sont parfois les travailleurs des secteurs où la présence syndicale, justement, n'est pas la plus forte. Je pense à l'hôtellerie et restauration. C'est-à-dire que le risque, ce sont les demandeurs d'emploi, ce sont les jeunes qui sont arrivés sur le marché du travail. Le risque, c'est que ça reparte et qu'on oublie que cette crise, elle a creusé les inégalités.
Alors, vous parliez des jeunes. Vous avez vu qu'il y a ce plan, un jeune, une solution, et notamment les entreprises qui sont mises à contribution. Alors là, ce sont pour des jobs d'été, mais le gouvernement n'a pas fait suffisamment pour vous ?
Non, mais ce n'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est que sur la question économique et sociale, pendant cette période, le gouvernement, il a fait... pas tout seul. Hein. Parfois, il donne le sentiment qu'il fait tout seul parce que les organisations syndicales, patronales, ont fait des propositions toutes les semaines. Encore ce soir, on est en rencontre avec la ministre du Travail. En ce moment, c'est plutôt tous les 15 jours, 3 semaines. Mais enfin, pour apporter des propositions.
Mais le quoi qu'il en coûte, vous dites, ça, c'était bien. Et ça doit continuer.
Oui, c'était absolument nécessaire. Non, il faudra que ça s'arrête, évidemment. Il faudra que ça s'arrête, notamment sur le soutien aux entreprises pour qu'on... On a fait de l'arrosage automatique, maintenant il va falloir faire...
On a fait tourner la planche à billes.
Oui, mais maintenant il va falloir faire plus ciblé. Mais c'était absolument nécessaire. Mais encore une fois, certains ont payé un lourd tribut par rapport à d'autres. Moi, je prends en exemple les jeunes. Les jeunes, ils ont eu des difficultés à rentrer sur le marché du travail. Ils ont eu un choc d'accès à la culture, au lien social, etc. Il y a besoin d'un plan plus important encore à leur égard.
quoi
dans cette période.
Qu'est-ce que vous voulez, vous, pour les jeunes?
Les aides, d'abord, il y a l'aide à l'accompagnement professionnel, il y a la ressource. N'oublions pas que nombre de jeunes qui ont moins de 26 ans, qui n'ont pas forcément les parents derrière, n'ont pas accès à une allocation de base et se retrouvent dans la pauvreté pour nombre d'entre eux.
On leur donne de l'argent.
C'est ce qu'on appelle la garantie jeune universelle, un accompagnement vers la formation, vers l'emploi et en même temps une allocation. Ils ont aussi eu un choc, et j'ai vu que le gouvernement avait fait un pass culturel d'une certaine manière pour des jeunes de plus de 18 ans.
300 euros.
C'est absolument nécessaire. Ne négligeons pas cette épreuve traversée par nombre de citoyens. Pour certains d'entre nous, ce sera un mauvais moment et on repartira comme avant. Pour d'autres, il y aura un vrai arrêt dans un développement, et particulièrement pour les jeunes. Et là, il y a besoin d'un axe prioritaire en leur destination. Et moi, j'ai fait une proposition. On a aussi, pendant cette période, des très très hauts revenus qui ont
Je note juste
contribué.
Que le gouvernement a mis aussi en place une aide à l'embauche des jeunes. Hein.
Oui, mais encore une fois, pourquoi, quand on essaye de penser la suite, faudrait-il critiquer le passé? Moi, ce n'est pas ma façon de faire. Encore une fois, il y a eu une réponse pendant cette crise pour soutenir les entreprises, pour soutenir les ménages. Là, il va falloir regarder comment dans le monde, dans l'entreprise, mais également, enfin pour les entreprises, mais également pour les citoyens, pour les travailleurs, ceux qui ont particulièrement payé un lourd tribut, et comment on va les accompagner à pas être laissés au bord de la route. Enfin, ça va être absolument indispensable, y compris sur les échéances démocratiques qui nous attendent.
Vous demandez toujours l'abandon de la réforme de l'assurance chômage ?
Oui, parce que ce n'est pas le moment de taper sur les demandeurs d'emploi. Enfin, très clairement, cette réforme, ce n'est pas, contrairement à ce qui est dit, une manière de lutter contre la précarité, c'est faire en sorte qu'au 1er juillet, 1 300 000 chômeurs et moins d'indemnisation chômage et des gens qui touchent autour de 6, 7, 800, 900 euros.
Laurent Berger, est-ce qu'il faut réglementer le télétravail? Est-ce qu'il faut imposer dans les entreprises un nombre de jours de télétravail?
Il faut le négocier.
Vous disiez que vous alliez voir la ministre
Oui,
ce
nous,
soir,
ce qu'on
Elisabeth
demande, c'est qu'il faut le négocier. Là, on est encore dans une période transitoire, mais ensuite, en rythme normal, il faut négocier le recours au télétravail.
Mais c'est chaque entreprise qui doit décider?
Oui, on a signé avec le MEDEF et d'autres organisations syndicales et patronales un accord en fin d'année dernière qui prévoit un cadre de négociation dans les branches et dans les entreprises. C'est ce qu'il faut faire. La situation ici n'est pas la même que dans une entreprise qui est située à un autre endroit et qui est dans un autre secteur professionnel. Donc, il va falloir négocier. Nous, notre base, c'est qu'il faut se dire quelles tâches sont télétravaillables. Il faut que ce soit réversible, que ce soit la volontariat et que ce ne soit pas 100% de télétravail. Et après, c'est 2-3 jours et ça se négocie entreprise par entreprise.
Laurent Berger, nous sommes déjà entrés dans la présidentielle. Les régionales, c'est l'échauffement de la présidentielle. C'est dans 3 semaines. D'abord, comment vous jugez le climat de ces élections qui approchent? Est-ce que vous êtes inquiet de la tonalité de l'année qui s'annonce aussi?
Un peu, oui, mais surtout, les régionales, c'est pour savoir qui va diriger des régions avec un enjeu économique, formation professionnelle, etc. C'est fondamental, c'est-à-dire qu'on fait toujours les matchs avant les matchs.
Et donc, ça vous inquiète?
Oui, ça m'inquiète. Le climat démocratique, il est détestable. C'est la course à l'échalote des propositions. On en a entendu quelques-unes ce week-end qui sont toutes plus délirantes les unes que les autres.
Vous parlez de la justice d'exception de...
Mais bien sûr, on est dans un état
Guillaume
de droit.
Pelletier au grand jury.
Vous savez, moi, vous savez, je suis le président de la Confédération européenne des syndicats. Je vois ce que ça fait des pays où des gens sont élus et considèrent que l'état de droit est finalement juste une anecdote. Et il faut évidemment respecter l'état de droit, et on a nos institutions, on a nos fonctionnements démocratiques. Et donc, je crois vraiment qu'on n'a pas intérêt à faire la course à l'échalote derrière le Rassemblement national. Il y a des questions économiques, des questions sociales, des questions démocratiques qui sont posées, des questions sociétales. Il faut y répondre et pas simplement aller sur le terrain du Rassemblement national, ce qui est, à mon avis, une forte impasse.
Le même Guillaume Pelletier, vice-président de LR, donc, invité hier du Grand Jeu RTL, disait « Pas une voix ne doit aller à Emmanuel Macron à la présidentielle ».
Mais ça, c'est son droit de le dire. On part, ça dépend s'il parle.
Mais ça vous choque ou pas, vous, d'entendre ça?
Lui, il est un parti d'opposition. Il a le droit de dire ce qu'il veut. La question, c'est est-ce qu'il parle du premier tour ou du second tour?
Il dit, en cas de duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, il se place dans cette perspective.
Je vais vous dire, moi, ce qui me concerne, c'est qui que ce soit au second tour de l'élection présidentielle contre Marine Le Pen, il faudra voter pour cette personne, quelle qu'elle soit. Et c'est au premier tour qu'il faut déterminer, que les citoyens détermineront peut-être les deux qui seront, et peut-être qu'il n'y aura pas Marine Le Pen. C'est ça qu'il faut. Lorsqu'on est, je crois, républicain, qu'on croit à certaines valeurs, c'est ça qu'il faut essayer de viser et pas commencer à faire les deuxièmes mi-temps avant d'avoir fait la première. Mais très clairement, pour la CFDT, c'est clair. Qui que ce soit en face de Marine Le Pen ou du Rassemblement National au second tour, il faudra éviter que le Rassemblement National soit élu. Et dans ce cas, il faudra voter pour cette personne.
Vous avez le sentiment qu'il y a une digue qui cède chez LR ?
Il y a une digue qui cède dans beaucoup d'endroits. Je crois qu'il y a une digue, des digues qui cèdent dans le paysage politique, syndical. Je pense, oui, qu'on est dans une période où, malheureusement, un certain nombre de digues sautent. Et là, on a besoin d'une parole publique un peu plus apaisée, un peu plus responsable, et pas de faire la course à l'échalote une dernière fois. Je le dis comme ça, c'est le sentiment que j'ai. Et donc, il faut, à un moment donné, que les responsables publics, j'en fais partie, mais il y a les politiques, il y a d'autres responsables économiques, etc., aient une parole suffisamment claire pour qu'on arrête le délire. Il y a un certain moment, c'est halte au feu des propositions à la con, halte au feu le sentiment qu'il faut monter les uns contre les autres. On a le droit d'avoir dans ce pays, les Français ont le droit d'avoir un débat démocratique sain où l'enjeu numéro un, c'est pas disqualifier son adversaire, c'est de faire des propositions concrètes, constructives et de voir si ça requiert, si ça obtient l'assentiment des citoyens. C'est ça le débat démocratique. C'est pas la guerre. Enfin, faut qu'on revienne à un peu plus de responsabilité les uns et les autres.
Le débat démocratique, c'est aussi Emmanuel Macron qui repart en campagne avec un Tour de France qui débute le 28 avril prochain.
Oui, mais
sans vous donc. Il repasse.
Vous m'enlevez de la bouche. Très clairement, c'est très bien de parler aux citoyens. Il faut aussi considérer que la société, elle est complexe, elle est plurielle, et qu'il y a des corps intermédiaires, la société civile, qui organise des intérêts contradictoires qui traversent la société. Et encore une fois, ce serait une erreur fondamentale de considérer qu'il y a le pouvoir politique et il y a le peuple. Et qu'entre les deux, il n'y ait pas la démocratie sociale. Il y a une démocratie sociale qui s'organise, qui fait des propositions, qui a été au rendez-vous depuis un an et demi. On a fait notre boulot. Il faut pas repartir sur l'idée que finalement ce serait juste. Vous savez, l'élection, le pouvoir, l'élection c'est une journée, l'exercice du pouvoir c'est tout le temps qui reste. Et l'exercice du pouvoir c'est de faire en sorte que le débat contradictoire s'organise dans notre société et qu'on écoute enfin la société civile, ce qui n'a pas été assez fait pendant ce quinquennat.
Vous vous êtes reparlé avec le président Macron ?
Oui, mais lorsqu'il y a besoin, on s'est parlé, on s'est vu à Porto au sommet social.
Le fil n'est pas rompu ?
Non, mais vous savez, moi, franchement, je m'en fiche de qui je vois et qui je vois pas. Ce qui est important, c'est qu'on entende qu'il y a un certain nombre de propositions qui sont sur la table. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis très inquiet, je vous le dis, je suis très inquiet que la société redémarre, mais qu'on n'est pas le senti, on regarde pas finalement ceux qui sont au bord de la route et que la société se fracture encore. Notre pacte républicain, il est menacé beaucoup par les inégalités et celles-ci sont loin d'être comblées.
Le message est entendu. Merci Laurent Berger.
Merci.